is Thomas. Thomas shoots. That's behind him. It's knocked in by Maroon.
It's the St. Louisan, Pat Maroon. Bring out the Zamboni. Pat Maroon just put the city on his shoulders, and he sends him to the conference finals.
Le petit gars qui est pas vraiment un petit gars, mais un grand gars de Saint-Louis qui marque le but gagnant pour son équipe hier dans un 7e match en prolongation. Mario Tremblay est avec nous pour ouvrir l'émission. Bonsoir Mario.
Bonsoir Mario, ça va bien?
Ça va très très bien. Un scénario de rêve pour Patrick Maroon et les Blues de Saint-Louis hier à domicile. Un public très très sévère, t'as vu plus tôt dans la série, ils ont été hués quand ça n'a pas leur goût à Saint-Louis. Là.
Ben écoute, on sait que Saint-Louis quand même, Mario, c'est une vieille franchise. Ils sont pas là d'hier, ils sont là je pense depuis 1967. Alors, mais comme tu as mentionné tantôt d'entrée de jeu, je pense que pour un petit gars de Saint-Louis, Pat Maroon, ça a été vraiment là un but vraiment qui va marquer un peu sa carrière, si tu veux, avec les Blues de Saint-Louis. Mais ceci étant dit, mon cher Mario, moi, j'ai pas aimé vraiment la performance des Stars de Dallas là, dans ce match-là. C'est absolument incroyable. Tu regardes en deuxième période, un tir au but pour Dallas en deuxième, trois tirs au but en deuxième période. Écoute, quand tu veux gagner un match numéro 7, ton équipe se doit d'être prête, surtout où l'enjeu est aussi grand. Alors, j'ai été quand même déçu. Puis, soyons honnêtes, là, n'eût été de la performance de Bishop, il y en aurait pas eu de match en prolongation, parce que Saint-Louis, à mon avis, à moi, ont dominé cette rencontre-là.
Ouais, parfois, il y a une justice dans le monde du hockey, donc l'équipe qui méritait cette victoire-là est allée la chercher, mais tu sais que les Stars de Dallas sont passés bien près de l'emporter en prolongation. Je pense que c'est Jamie Benn, à un moment donné, alors que Bennington avait la jambière gauche enfoncée dans son filet qui a lancé, mais juste pas au bon endroit, en contournant le filet sur ce qu'on appelle un wrap-around, Mario. Dallas n'a pas été une équipe dominante, mais j'ai eu l'impression, à un moment donné, en prolongation, que Saint-Louis était en train de s'essouffler. Heureusement, ça leur a pas coûté le match.
Mais t'as raison, Mario, puis c'est vrai, faut donner crédit à Bennington encore une fois. C'est drôle, hein, ce jeune gardien-là, depuis qu'il est arrivé avec les Blues de Saint-Louis, fait flèche de tout bois. Il est en feu présentement, puis c'est un peu ce qui manquait également à l'organisation, on le sait tous, là, des Blues de Saint-Louis, au cours des dernières années. Leur gardien de but ne faisait tout simplement pas le travail. Enfin, ils ont trouvé cette perle rare-là, qui leur permet justement de passer en semi-finale de la Ligue nationale.
Et là, un autre match numéro 7 à se mettre sous la dent ce soir, et les Sharks contre l'Avalanche du Colorado. On sait déjà, en tout cas, que deux des équipes qualifiées ont raté les séries l'an passé. L'Avalanche l'a fait, s'est qualifié pour les séries l'an passé, donc ça pourrait être une autre participation. À qui tu donnes l'avantage ce soir, l'équipe à domicile ou les visiteurs?
Ah, sans aucun doute que je donne l'avantage à l'équipe au domicile. C'est pas facile de gagner à San Jose. La foule va être en feu. Et moi, je pense que San Jose, normalement, là, à moins de choses qui peuvent arriver. Sauf qu'il faut donner crédit à Colorado. Ils ont quand même gagné le dernier match qu'ils ont joué contre les Sharks de San Jose. Mais je pense que les Sharks, quand même, comme je viens de le mentionner, à domicile, c'est difficile de gagner là. Colorado n'a pas gagné souvent. Oui, ils ont gagné le match numéro 5, mais j'ai l'impression ce soir, par contre, que San Jose devrait fermer les livres avec une victoire contre l'Avalanche du Colorado.
Puisque c'est la première fois qu'on se parle cette semaine, on va se permettre un retour sur ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire avant hier soir, élimination des Blue Jackets de Columbus, malgré les belles paroles et les promesses de John Tortorella.
Things happen for a reason, and I truly believe that. We'll be back here for Game 7.
You said that you'll be back here for Game 7.
We will.
What gives you the confidence that you'll
Because
win game
we will.
Alors, John Tortorella a tenté de créer son effet sur la pendant la conférence de presse après le match numéro 5, s'est levé après avoir déclaré « We will ». Que veux-tu dire de plus après avoir promis que tu reviendrais pour le match numéro 7? Mais écoute, ça marche pas toujours comme ça, hein, entre ce qu'on dit et ce qu'on est en mesure de faire. Il y a parfois une marge importante. Et donc, le pari all-in des Blue Jackets de Columbus s'estompe en deuxième ronde. C'est quoi ton impression d'ensemble du pari et de la performance de Columbus dans cette série-là contre les Bruins de Boston qui se sont avérés trop forts?
Ben moi, je trouve que dans le match numéro 6, là où Boston a vaincu Columbus, moi, ce qui m'a déçu un peu là-dedans, mon cher Mario, c'est que j'ai trouvé que les Bruins de Boston avaient joué un match incroyable. Du début à la fin, tout Carrasque, encore une fois, se lève devant le filet des Bruins de Boston. Mais tu sais, Mario, je te mentionne tout le temps, puis souvent, puis je ne veux pas être tannant avec ça, sauf que on dit tout le temps dans les matchs aussi importants, faut que tes meilleurs joueurs se lèvent. Puis moi, je pense que l'entraîneur, quand il a déclaré après le match numéro 5, on va être de retour pour le match numéro 7. Tu sais, il a voulu quand même lancer un message à son équipe en disant, écoutez, boys, tu sais, on a connu des bonnes séries éliminatoires, une bonne fin de saison. Puis John Tortorella croyait vraiment en son équipe, en étant finalement croyant qu'on était pour gagner le match numéro 6 à domicile. Sauf que je reviens là-dessus, c'est que, tu sais, tantôt je te disais que je te dis souvent, faut que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs. Et dans le cas des Bruins de Boston, encore une fois, on a vu la profondeur des Bruins. Tu sais, tantôt je te parlais de Tuukka Rask, Krejci qui a marqué un but une passe, Johansson, Backes. Alors, c'est pas toujours le premier trio des Bruins qui produit. Mais quand même, je regarde du côté de Columbus. C'est Atkinson, qu'on n'a pas trop vu dans cette série-là, fini la soirée avec moins un. Panarin, moins un, seulement 3 tirs au but. Duchesne, qu'on n'a pratiquement pas vu non plus, seulement qu'un tir au but. Dezingel, qu'on n'a pas vraiment vu non plus dans cette série-là. Alors, c'est ce qui a fait la différence, à mon avis, dans les victoires de Columbus face aux Bruins de Boston. On a vu Duchesne marquer un avantage numérique, Panarin marquer des gros buts, mais dans un match aussi important, dans le match numéro 6, on les a tout simplement pas vus. Tu sais, dans les séries éliminatoires, c'est tellement difficile. Puis, regarde, je l'ai vécu quand j'ai joué au Canadien. C'était un peu un apport de tout le monde, des quatre trios. Mais c'est évidemment, nos gros canons étaient toujours là, les Lamer, les Lafleur, les Schott et compagnie. Alors, c'est ça un peu. Mais les Blues de Boston, là, ce qu'il faut regarder dans cette équipe-là, tu sais, on parle des joueurs. Mais j'aime le travail que Bruce Cassidy fait avec cette formation-là. Depuis que Cassidy a remplacé Claude Julien avec les Bruins de Boston, là, il a fait un travail vraiment incroyable. Et c'est une équipe également qui a bien repêché. Et ce que j'aime également dans ce club-là, c'est qu'on a un bon mélange de jeunes et de vétérans. Et je pense que les Bruins de Boston vont être là encore pendant longtemps. Puis moi, je pense que faut donner... Tantôt, je parlais de Bruce Cassidy qui fait un travail incroyable. Mais il faut donner aussi crédit à Sweeney. Là.
Ben, je comprends donc.
Tu sais, ce gars-là a fait du bon travail quand il a remplacé Pete Chiarelli. Alors, non, les Bruins de Boston sont bien en selle. Alors, faites attention. Moi, je pense que c'est une équipe fort possiblement qui pourrait se retrouver en finale de la Coupe Stanley.
Permets-moi, justement, Chiarelli qui est allé à Edmonton, on a vu le travail qu'il a fait là-bas. Là, il est remplacé. Ken Harlan a été nommé là. Je fais juste une parenthèse en parallèle avec les séries en cours parce que je remarquais dans les propos qu'on tient à Edmonton que le mandat de l'entraîneur qui sera embauché par Ken Harlan sera de faire en sorte que son équipe coupe dans les buts alloués, Mario. Tu sais, la grosse mode de l'offensive, là, tout le monde parlait d'offensive, c'est sexy. Peut-être en saison régulière, dans le premier tiers, quand les gars remplissent leur fiche personnelle pour négocier des contrats, que l'offensive est à la mode, mais je regardais tous les scores de tous les matchs des séries en cours, et la conclusion à laquelle j'en arrive, c'est que une équipe qui accorde plus que trois buts ou plus, a peu de chances de gagner des matchs. Je veux pas t'étourdir avec des résultats de matchs, là, mais tu sais, je vais juste prendre, tu sais, m'a donné des scores des victoires des Bruins. Et le nombre à retenir, c'est le nombre de buts qu'ils accordent. Ce sont toutes des victoires. 4-1, 6-4, 4-2, 5-1, 3-2, 4-1, 4-3, 3-0. Fait que tu sais, une fois ils ont accordé 4 buts, ils ont gagné un match pareil, ils ont été obligés d'en marquer 6. Donc, ça te prend de l'attaque pour faire face à ce type de riposte-là. Mais pour le reste du temps, là, il y a juste une autre victoire où ils accordent 3 buts, le reste, c'est 2 et moins. Et c'est quoi, là, je ne ferais pas le même exercice avec toutes les séries, mais c'est pas mal du pareil au même. Si tu accordes 2 buts et plus, t'es dans le trouble.
Mario, juste pour continuer ce que tu dis là, puis t'as tellement raison, regarde ce que Barry Trotz a fait avec les Islanders de New York. Les Islanders de New York, là, c'est l'équipe qui a eu le plus gros changement de but contre versus les dernières années avec Barry Trotz. Ils ont perdu en deuxième ronde contre la Caroline, mais c'est ça pareil. Puis c'est un peu ça, ça prend une structure dans une équipe de hockey. Et à Edmonton, là, ils n'ont pas ça encore. Puis moi, je pense que du côté d'Edmonton, d'avoir nommé, pour en parler la semaine dernière justement ensemble tous les deux, d'avoir nommé Harlan comme directeur gérant et président des opérations avec les Oilers d'Edmonton, vous allez voir que ça va changer de bête. Là, je pense qu'on est rendu à des choses sérieuses. Puis Kenny Harlan, il a gagné quand même des Coupes Stanley à Détroit. Puis là, je pense que les joueurs, là, ils vont comprendre le message. J'ai hâte de voir quel entraîneur ils vont engager maintenant avec les Oilers d'Edmonton, mais je pense que sans aucun doute que les Oilers d'Edmonton sont partis, ça va être une nouvelle ère à Edmonton. Puis comme un peu, comme j'ai dit tantôt, avec les Islanders de New York, avec Barry Trotz.
Intriguant, l'entraîneur qu'ils vont embaucher. J'ai pas fait l'exercice d'examiner tous les candidats potentiels, mais as-tu l'impression qu'ils vont y aller du côté d'un vétéran établi ou prendre une chance avec quelqu'un qui a moins d'antécédents dans la Ligue nationale, comme Jim Montgomery avec les Stars de Dallas cette année, à titre d'exemple? Là?
Moi, j'ai l'impression que si j'étais, moi, Kenny Harlan, j'irais avec un coach d'expérience. Je vais dire pourquoi. Parce que, justement, là, c'est ces jeunes joueurs-là qui ne semblent pas vouloir comprendre c'est quoi le concept d'équipe et comme tu as mentionné tantôt, d'arrêter de marquer des buts, puis perdre 5-4, puis perdre 6-5 ou perdre 4-3. Alors ça prend, comme j'ai dit tantôt, une nouvelle structure avec cette formation-là. Puis je pense que le plus bel exemple que je peux te donner, c'est regarde ce que les Flyers de Philadelphie ont fait lorsqu'ils ont engagé Alain Vigneault. Puis je vais te dire une affaire, là, ils ont tout un trio derrière le banc. Là. Alain Vigneault, Michel Therrien, Mike Yeo, c'est trois entraîneurs-chefs. Puis Mike Yeo, on le sait, avait été engagé par Chuck Fletcher avec le Wild du Minnesota. Alors ça prend quand même là un message qui est lancé aux joueurs, Mario. Derrière le banc, là, on ne file pas pour rire, on a des joueurs d'expérience, et il faut que le message passe, parce que les trois gars qui vont être derrière le banc des Flyers de Philadelphie ont tous gagné à quelque part. Alors, ça va être difficile pour les joueurs là, de contester, mais il faut que le message passe. Et attention l'an prochain aux Flyers de Philadelphie. Moi, j'ai une grande confiance à ces trois bonhommes-là. Puis je pense que le plus beau travail de Cliff Fletcher, ce qu'il a fait, c'est de commencer là où c'est le plus important, derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale, avec Vigneault, avec Therrien, avec Mike Yeo. Attention, attachez vos trucs.
Coudon, est-ce que l'importance des entraîneurs, ou est-ce qu'on a recommencé à mieux considérer, je dis pas qu'on l'a négligé, mais c'est comme un feeling que j'ai que tout à coup, on se rend compte qu'une équipe bien dirigée ben, a des résultats différents d'une équipe peut-être où c'est moins clair. Mais as-tu l'impression que ça a été discrédité un peu dans les dernières années?
Ben, non seulement durant les dernières années, Mario. Tu sais, quand une équipe gagne, qu'est-ce qu'on dit? On parle toujours des joueurs. On oublie également la préparation dont les entraîneurs travaillent dans les séries éliminatoires. Puis ça, c'est normal. Quand une équipe gagne, ce sont les joueurs. Quand une équipe perd, c'est tout. On regarde toujours du côté de l'entraîneur. Mais pour l'avoir vécu là comme joueur dans les séries éliminatoires, puis l'avoir vécu également comme entraîneur dans les séries et assistant coach dans les séries éliminatoires, vous savez pas le nombre d'heures d'ouvrage que ça peut être pour les entraîneurs dans les séries éliminatoires. C'est un feu roulant, ça n'arrête pas. Alors c'est la préparation, c'est les vidéos, c'est l'avantage numérique, c'est le désavantage numérique, 5 contre 5, qu'est-ce qu'on fait pour contrer nos opposants. Alors ça n'arrête pas là, c'est à tous les deux jours. Tu rentres au bureau le matin à 7h, tout le monde est là, le directeur gérant est là, on pose des questions, on échange. Alors comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un feu roulant, puis on oublie ça là. Tantôt je te parlais de Bruce Cassidy avec les Bruins de Boston, je parlais justement de Barry Trotz avec les Islanders de New York. Tu sais, les clubs qui avancent, c'est parce qu'ils sont bien dirigés, ils sont bien préparés, et les joueurs savent exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire.
Je reviens au trio d'entraîneurs des Flyers, Alain Vigneault en chef, même le 4-3, parce que Yann Laperrière va demeurer dans l'équipe, Mike Yeo, Michel Therrien, trois anciens entraîneurs-chefs, et puis je me demandais, est-ce qu'un gars comme Michel Therrien t'a demandé comment ça avait fonctionné avec Jacques Lemaire? Parce que toi, t'as été un de ceux qui est parti d'un poste d'entraîneur-chef et qui est allé dans un rôle d'entraîneur associé, d'entraîneur adjoint, et pour ceux qui se demandent, ben quand t'as autant de forts caractères, de fortes personnalités qui travaillent ensemble derrière un banc, ça peut-tu fonctionner? Puis est-ce qu'il faut faire des compromis pour que ça fonctionne, Mario?
Ben, c'est sûr que ça va fonctionner, pas de doute là-dessus. Puis je pense que lorsque Alain Vigneault a rencontré Michel Therrien, ce sont deux bonhommes qui se connaissent depuis longtemps. Puis c'est ça, je pense, la force d'un entraîneur-chef comme Alain Vigneault de s'entourer de personnes qu'il connaît. C'est un peu comme quand Jacques Lemaire m'avait appelé, à ma grande surprise, lorsqu'il voulait m'avoir comme assistant-entraîneur avec le Wild du Minnesota. Là, j'ai rencontré Doug, que je connaissais quand même depuis longtemps. Mais il voulait juste vérifier. On a eu une réunion qui a duré peut-être 3-4 heures. Jacques avait dit à Doug, va le rencontrer. Doug, t'es venu à Montréal. On a jasé. C'était comme ma vision d'être un assistant-entraîneur, puis tout ça. Mais ça, l'important là-dedans, c'est, tu sais, un assistant-entraîneur, c'est là pour toujours supporter ton entraîneur-chef, peu importe ce qui arrive. Puis à un moment donné, Jacques Lemaire, la raison pour laquelle il m'avait engagé, il savait que j'étais pas un yes-man. Il voulait savoir exactement quand il me posait des questions, qu'est-ce qu'il voulait savoir de moi, de mes réponses. Puis lui, après ça, il prenait la décision finale. Mais en aucun... Puis c'est arrivé souvent, ben pas souvent, mais c'est arrivé à quelques occasions où on était en désaccord. J'avais mon point de vue, il avait son point de vue, et en bout de piste, c'est lui, Jacques Lemaire, qui prenait la décision finale. Et ça, moi, ma job à moi, c'est d'accepter ce que l'entraîneur-chef veut faire.
C'est arrivé en quoi, 8-9 années d'association, là, que vous avez pas pris une petite course light ou une, peu importe la marque, une petite light après une game ensemble parce que vous étiez trois en beau fusil?
Ben écoute, je suis arrivé à quelques reprises, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Tu sais, des fois, moi, j'étais en charge des défenseurs, puis à un moment donné, ils trouvaient que, t'aurais dû envoyer lui, mais écoute, bien Jacques, là. Tu veux-tu renier le bon complet ou tu me fais confiance? Tu sais, quand tu m'as engagé, tu me fais confiance, moi, j'y vais selon mon feeling derrière le banc. Tu sais, des fois, c'est sûr que l'entraîneur-chef, des fois, voit des choses différentes, puis moi, je vois des choses différentes. Comme moi, j'ai dit à Jacques à un moment donné, moi aussi, là, quand tu fais tes changements de trio, moi aussi, je trouve des fois que tu devrais faire jouer jouer lui à place de lui. Mais ça, c'est en bout de piste, quand t'es des bons amis, tu peux te parler comme ça.
Ben, c'est extraordinaire quand tu nous partages ça, tout ce vécu-là. Mario, merci beaucoup. Une bonne soirée et prédiction ce soir, match numéro 7, San Jose, hein, je pense?
San Jose, mon chum. Yes, sir. Les carottes sont cuites pour l'Avalanche. Jusqu'à date, je me suis pas trop trompé.
T'as une bonne moyenne, le maire. T'as une bonne moyenne. Merci beaucoup, Mario.
OK, mon chum. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Toi aussi.
Bye.